entendre Nicolas Faure, maintenant, qui va nous parler du point de vue des auteurs.
Voilà, davantage. Alors, je me présente rapidement. Moi, je suis professeur de lettres et d'option théâtre. Je travaille dans un lycée. Je suis professeur de lettres et d'option théâtre. Je travaille dans un lycée à Castelnaudary. Et avant d'enseigner, j'étais animateur de jeux dramatiques. Et je cherchais souvent des textes à faire jouer par des jeunes, et je n'en trouvais pas, ou alors des choses très pauvres. Et j'ai commencé à trouver des choses intéressantes, c'était dans les années 90, dans les textes justement destinés à être joués par des compagnies professionnelles, des compagnies adultes, pour des publics d'enfants. Qui a priori n'était pas la destination première à être joué par des enfants. Et comme disent les Québécois, moi, je suis un peu tombé en amour de ce répertoire, et j'ai fait un doctorat en art du spectacle là-dessus. Donc j'ai sélectionné un corpus de 120 textes qui vont de 1980 à 2002. Et puis j'ai essayé d'analyser les tendances de ce répertoire. Alors, depuis 2002, beaucoup de textes ont été publiés, certaines conclusions ont un peu évolué. Mais comme le disait Julien à l'introduction, ça concerne davantage le théâtre jeune public que le théâtre pour la marionnette. Cela dit, certains textes qui se présentent de théâtre jeune public suggèrent fortement dans la table linéaire des personnages, par exemple, d'utiliser des marionnettes pour certains personnages. Et il y a aussi des textes qui, a priori, sont destinés à être joués par des acteurs qui, finalement, se retrouvent fréquemment joués par des marionnettes. Notamment pour une question de distribution, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc vous savez que ça pouvait constituer un éclairage intéressant sur la question de la marionnette. Je vais commencer par faire un rapide historique de ce répertoire, ensuite donner quelques citations. Je me suis amusé à aller chercher des propos d'auteurs sur la censure et l'autocensure. Et puis je terminerai par ce que j'appelle le détour, parce qu'à mon avis, pour beaucoup d'auteurs, notamment ceux qui refusent le terme d'autocensure, on considère que le fait de s'adresser aux jeunes spectateurs constitue une richesse plus qu'une contrainte, ou alors une contrainte productive. Et on va passer par le détour. On va, comme tu disais bien, on utilise des thèmes même que dans le théâtre général. On ne s'interdit pas grand-chose. Par contre, dans les formes, on va peut-être chercher des formes un peu particulières pour s'adresser aux jeunes spectateurs. Voilà, alors je commence par l'historique. Bon, en gros, le théâtre d'art pour le jeune spectateur naît dans l'entre-deux-guerres. Auparavant, c'est souvent un théâtre plutôt pédagogique ou alors commercial. Il y a deux directions. Léon Chancerelle d'un côté avec... les scouts et les comédiens routiers qui animent des séances de jeux dramatiques et qui essayent d'apporter des spectacles de théâtre un peu plus aboutis, notamment avec des personnages tirés de la Commedia dell'arte. Et de l'autre côté, c'est toutes les associations d'éducation populaire, les guides d'enseignement, les CMEA, qui essayent aussi d'apporter un théâtre un peu plus exigeant aux jeunes spectateurs. Pour l'instant, à ce moment-là, il n'est pas trop question de répertoire, même si Léon Chancerelle, dans son bulletin, publie quelques pièces par moment. Dans les années 60, c'est plus l'explosion du théâtre en France, la décentralisation. On reconnaît de plus en plus l'enfant comme un individu à part entière, qui a droit à avoir lui aussi des formes artistiques exigeantes. Mais c'est aussi l'époque des créations collectives, et beaucoup de compagnies à l'époque refusent de textes. Partent de leur vécu, de ce qu'ils ont envie de transmettre aux jeunes spectateurs, et on a notamment dans les... il y avait des débats pendant l'héritage des rencontres internationales du théâtre de l'enfance et de la jeunesse à Lyon, c'était un festival à niveau international. C'est assez amusant de lire les comptes rendus de ces héritages, parce qu'il y avait des batailles entre les tenants justement du texte et les tenants du long texte de la création. À l'époque, on refusait de constituer un répertoire, parce qu'on avait, en tout cas un certain nombre de compagnies, refusaient de constituer un répertoire par crainte de se retrouver dans un théâtre bourgeois, façon comédie française, avec soir de première. Donc c'est pour ça que ce répertoire finalement est né assez tardivement. Et les premiers auteurs à écrire pour la jeunesse, ce sont au fond des praticiens, notamment des gens qui ont fini par diriger des éphémères centres dramatiques nationaux pour l'enfance et la jeunesse, René Pillot, Maurice Hient, qui, parce qu'eux avaient envie de travailler sur le texte et n'en trouvaient pas, ont décidé d'en écrire et de les publier souvent dans des revues, des petits cahiers liés à leur structure de diffusion. Donc, jusqu'au milieu des années 80, c'est plutôt peu de textes édités ou alors dans des éditions un peu militantes liées à des structures de diffusion. Et je pense que la date tournant, en tout cas symboliquement, ça a été quand Dominique Bérodi a fondé les éditions Traite au théâtre, parce que là, c'était une structure d'édition indépendante de théâtre, et comme il le dit dans la postface de chaque édition, il essayait de promouvoir un théâtre d'auteur, un peu à l'image du cinéma d'auteur des années 60. C'est-à-dire qu'on confère au texte une valeur littéraire en lui-même. Et à partir de là, peut-être que ça peut intéresser le jeune lecteur, le metteur en scène, le potentiel, etc. Ça, c'est donc au milieu des années 80. Dominique Bérodi, c'est 1987. 1995, comme tu disais, Brigitte Smadja qui fonde la collection théâtre à l'école de loisirs, avec tout le poids économique et symbolique que peut avoir la maison d'édition à l'école de loisirs. Et puis ensuite, donc là, on est plutôt du côté d'une édition jeunesse qui va chercher le théâtre. Et ensuite, ce sont plutôt des éditeurs de théâtre qui vont chercher la jeunesse. Actes Sud, Ayoka, L'Arche, etc. qui ont fondé des collections spécifiques. Alors aujourd'hui, combien de textes jeunes publics édités? Je crois que c'est impossible à dire, parce qu'il y a aussi tout un tas de petites maisons d'édition. Moi, je pense, pour ma thèse, j'ai dû en lire 200-250, ça fait 10 ans, donc maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit à près de 400. Plus tous les textes québécois, qui sont aussi très riches, plus les éditeurs comme Lanceman en Belgique. Je crois qu'on commence effectivement à avoir un répertoire de textes variés et riches, exigeants. Les auteurs. Je crois qu'en gros, il y a à peu près quatre catégories. Il y a les pionniers, comme justement Maurice Yen, René Pilliot, qui sont encore aujourd'hui les plus prolifiques, parce que c'est eux qui ont démarré en premier. À côté de ça, il y a maintenant des auteurs plus récents, comme Dominique Paquet ou Nathalie Papin. On trouve aussi quelques auteurs jeunesse, comme Brigitte Majac, qui se sont intéressés ensuite au théâtre. Et puis, des créateurs pour adultes, dont tu parlais, comme Olivier Pie, comme Joël Pommerat, qui se sont finalement penchés sur le théâtre jeune public. En arrivant d'ailleurs, je crois que ces auteurs déjà reconnus du théâtre général ont apporté une sorte de légitimité, en tout cas médiatique, au secteur jeune public, et c'est pas un mal. Cela dit, la part du texte dans la production jeune public reste encore, à mon avis, mineure. Il suffit de regarder les programmations, des structures, des festivals. 20 à 25% peut-être des spectacles sont créés à partir d'un texte édité en direction du jeune public. Les trois quarts, ça reste des créations collectives, des adaptations d'albums, etc. Il faut dire aussi que tant qu'il n'y avait pas de répertoire, évidemment, on ne pouvait pas l'utiliser. Maintenant, il commence à y en avoir un, il commence à intéresser les metteurs en scène, donc il commence à s'en saisir. Voilà pour l'historique. Quelques mots sur l'évolution de ce répertoire. Je pense qu'au début, dans les années 80, on est encore dans une relation un peu paternaliste entre l'auteur et les jeunes spectateurs, avec la volonté de délivrer un message, ou en tout cas qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté sur ce message. Par exemple, on a souvent un chœur d'enfant qui, à l'intérieur de la pièce ou à la fin de la pièce, va prendre la parole pour expliquer ce qui se passe. Je pense à un texte de René Pillot où on a toute une fantaisie, c'est l'eau qui envahit la salle de bain, des personnages qui existent comme ça de façon autonome, et puis à un moment il y a les poissons qui prennent la parole pour expliquer qu'en fait si l'eau envahit la salle de bain, c'est à cause de la pollution, pour prévenir les hommes qu'il y a un danger de pollution. Attends, c'est tout à fait louable évidemment, hein, mais voilà, le texte qui pouvait se dérouler de façon autonome, on le ramène dans une volonté un peu didactique, un peu pédagogique. Sans doute que le poids des décideurs, les adultes, les enseignants, jouent un rôle aussi là-dessus pour le créateur. Je crois qu'on a évolué là-dessus. Alors, petite anecdote, je sortais d'un spectacle de Philippe Dorin, qui sont des spectacles exigeants, pas faciles, où justement la liberté d'interprétation est sans doute plus libre. Et derrière moi, j'avais deux mamans qui discutaient avec leurs enfants, et l'une des mamans dit à l'autre, en parlant des enfants, « Bon, ben maintenant, il va falloir leur expliquer. » Et puis elle se reprend et elle dit, « Enfin non, je veux dire, on va en discuter avec eux. » Et je trouve les deux réflexions très, très représentatives. D'une part, du fait que l'adulte est peut-être un peu perdu, lui aussi, face au spectacle, qui est obligé de se dire, après tout, peut-être que moi non plus, j'ai pas le sens, et que c'est un sens que je vais construire avec l'autre. Et puis, du fait aussi, c'est du théâtre contemporain, du théâtre jeune public. Et donc, ça adopte les formes du théâtre contemporain en général, qui sont des formes très éclatées, et de plus en plus. Un texte de Marion Aubert, qui s'appelle « Les orphelines », c'est un véritable puzzle à reconstruire. Le personnage, il est tout à la fois. Il est une petite fille, mais il est aussi la directrice, la chef d'un atelier de confection clandestin. Elle est mariée, elle a des enfants. Enfin, c'est un véritable puzzle et on laisse le soin au jeune spectateur de le reconstruire, sachant que le metteur en scène, lui aussi, va avoir sa lecture. Voilà. Pour l'évolution, en gros, sur 20-30 ans de cet âge. Je vais passer maintenant à quelques propos d'auteurs sur la censure, on va voir que les avis finalement sont assez partagés. Bon, alors d'abord, je le rappelle, bien sûr, souvent dans le théâtre jeune public, c'est l'adulte qui est décideur, que ce soit l'école, que ce soit l'accueil des loisirs, que ce soit la famille. Donc c'est l'adulte qui risque d'exercer une censure, donc de provoquer une autocensure chez l'auteur. Je cite des propos de François Spillet à propos d'un spectacle fin des années 70. Ça a fichu une sacrée pagaille. Imagine, on était en 1979. C'est un spectacle qui s'appelle « Entre et ferme la page ». Une pagaille salutaire, car il a eu le mérite de poser les questions au cœur de l'artistique et non du pédagogique. C'était la forme de la représentation théâtrale qui causait une polémique et parfois un rejet violent. Malgré cette polémique, le spectacle s'est très bien vendu grâce à des défenseurs acharnés, des acteurs de l'action culturelle, qui étaient ravis des discussions passionnées que ce spectacle engendra. Autrement dit, il y a eu des bagarres aussi dans le théâtre. Il y a eu des provocations, il y a eu des risques artistiques qui ont été pris, et le risque artistique se transforme très vite en risque économique. Il y a eu une époque où les rectorats imposaient des listes de spectacles par académie et les enseignants qui voulaient amener leurs élèves au spectacle étaient obligés de choisir des spectacles dans cette liste. Aujourd'hui, je crois que c'est terminé. Les rectorats continuent, en tout cas certains, à éditer ces listes, mais les enseignants sont plus tenus les suivre. Donc aujourd'hui, si on n'a plus cette censure de l'autorité administrative, on a quand même, je pense, une censure économique. C'est-à-dire que l'auteur qui décide de choisir des thèmes risqués, elle risque de voir son spectacle pas vendu, pas acheté. Je cite un dialogue entre Joël Joanneau et Suzanne Lebon. Joël Joanneau. J'ai écrit un conte pour enfants, L'Inconsolé, qui aborde la question du tourisme sexuel. L'enfant comme matériau sexuel existe, on ne peut pas le nier. Je lis sur ce sujet tous les rapports de l'UNICEF. Si on ne parle sur le plateau avec la violence que ça suppose, on sait que ça va être un combat acharné avec les décideurs. Suzanne Lebon. Ou alors, pour que ce ne soit pas un combat féroce, il faut diluer le propos, dédramatiser la situation et conclure en proposant une fin optimiste. Joël Joanneau, la censure est encore bien réelle, bien ancrée. Suzanne Lebeau, je sais par expérience qu'un spectacle qui présente quelque chose de douloureux, de grave, ne doit souffrir d'aucune petite faiblesse par laquelle la critique va s'engouffrer tête la première pour détruire la vie du spectacle. Alors qu'en présence de, entre guillemets, produits artistiques perçus comme sans conséquence, les adultes perdent tout jugement critique. Je trouve cette réflexion très intéressante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le spectacle est risqué, l'adulte va porter un jugement non pas moral, mais esthétique. En tout cas, il va peut-être déguiser son jugement moral et se dire « non, c'est trop dur pour les enfants » sous un jugement esthétique. « Ah oui, là, c'est pas bien, il va pas comprendre, on va pas acheter ce spectacle. » Et ça me fait penser à ce que vous disiez sur les personnages, les troupeaux violents, et les images sont laides. On dit « c'est un jugement moral ou c'est un jugement esthétique ?» Est-ce qu'au fond, on déguise pas le jugement moral sous un jugement esthétique ? Donc certains auteurs admettent, reconnaissent qu'ils s'autocensurent. Une citation de Luc Dumont. Auteur de spectacle, au théâtre, je ne mise pas sur une éternité quelconque de mes écrits. Ce qui m'importe, c'est vivre le temps des représentations, aussi éphémère soit-il. Écrire pour être entendu, jouer pour être vu. Cela implique-t-il de l'autocensure ? Certes. Il serait difficilement envisageable de proposer aux organisateurs, décideurs, clients, adultes souvent tenus pour responsables de la morale dispensée aux jeunes, aujourd'hui, des spectacles trop provocateurs. On a donc bien des auteurs qui reconnaissent l'autocensure. Cela dit, dans tous les interviews que j'ai pu lire, ce n'est pas les plus nombreux. Par contre, ils reconnaissent tous une autre forme d'autocensure, c'est le nombre des personnages. Parce que, tout simplement pour des conditions économiques, là, j'ai des chiffres de 2001, un spectacle jeune public compte en moyenne 3,6 artistes sur le plateau, contre 6,6 artistes pour le théâtre adulte. Donc, deux fois. Donc certains auteurs reconnaissent une forme d'autocensure en se disant « si je mets trop de personnages sur scène, je ne vais jamais réussir à tourner mon spectacle parce que ça sera trop cher, il faudra payer tous les comédiens. » Alors effectivement, dans mon corpus de 120 pièces, je remarque que 40 sur 120 mettent en scène entre 2 et 4 personnages. Cela dit, d'un autre côté, 49 pièces, soit près de la moitié, mettent en scène entre 5 et 9 personnages, et une trentaine de pièces, soit près d'un quart du corpus, plus de 10 personnages. C'est-à-dire, oui, effectivement, on a un certain nombre de pièces à très faible distribution, mais on a encore quand même des pièces à forte distribution. Cela dit, bien souvent, ces pièces à forte distribution, quand on regarde en détail, c'est souvent sous la forme d'un conte initiatique, avec des épreuves successives, c'est-à-dire par des personnages qui peuvent être joués par beaucoup de personnages, par un petit nombre de comédiens. Ou alors par les marionnettes. C'est un sujet clairement à table de lumière. Donc on reste à cette forme d'autocensure économique. Si je mets trop de comédiens sur le plateau, ben, mon spectacle ne va pas tourner. Je passe maintenant aux auteurs qui refusent l'autocensure, il y en a qui le disent très franchement. Liliane Atlan. Je ne me suis jamais demandé pourquoi les enfants prennent tant de place dans ce que j'écris. Ils sont là, de façon naturelle, nécessaire. On peut tout leur dire, ils peuvent tout comprendre. Jasmine Dubé. Je ne me restreins d'aucune façon parce que je m'adresse à des enfants. Il faut avoir quelque chose à dire avant d'écrire. Une urgence de dire, de raconter. On se rend compte, quand on lit les interviews d'auteurs, souvent certains en ont un peu marre de qu'on leur demande pourquoi vous écrivez pour le jeune public. Ils répondent, j'écris parce que j'ai envie d'écrire, pourquoi est-ce que j'écrirai pas pour le jeune public ? Et je pense qu'il y a la volonté, là-dessus, justement, de dire, c'est pas parce que j'écris pour le jeune public que je me censure, c'est d'abord parce que je suis auteur, d'abord parce que je suis artiste. Cela dit, il y a quand même, à mon avis, même chez ces auteurs qui refusent l'autocensure, on se rend compte qu'ils cherchent aussi une forme d'équilibre entre des thèmes graves, difficiles, et des formes qui restent accessibles. Je cite ici Margaret Jennings. A priori, en tant qu'auteur, je n'exclus aucun thème. La totalité de l'expérience humaine concerne aussi les enfants, qui, jusqu'à nouvel ordre, appartiennent aussi à l'humanité. Si autocensure il y a, elle se porte sur la forme dans laquelle ces thèmes seraient abordés. Avec certains thèmes, il faut ruser, mais ruser développe l'imagination et l'ingéniosité. Ça fait même partie du plaisir de les traiter. Tout est dans le dosage. Philippe Dorin, je ne vais pas m'empêcher de parler de certaines choses parce que les enfants ne vont pas les comprendre. Non, c'est à l'enfant d'interroger sa maîtresse, ses parents. Ça enrichit toujours. Ce qui n'est pas compris fait une sorte de matelas. On ne comprend pas, mais on sait que ça dit quelque chose. En même temps, il faut que les enfants retrouvent des mots avec lesquels ils ont une complicité, qu'ils puissent s'amuser avec certaines formes qu'ils connaissent bien. Et pour terminer, Suzanne Lebeau, à propos d'un texte sur l'inceste qui s'appelle « Petite fille dans le noir », toujours la même question qui refait surface. Est-ce qu'on a le droit de toucher les enfants avec des situations vraies, fortes, denses, qui n'ont peut-être pas connues, dans un langage théâtral qui ne dit pas tout, ne rassure pas, ne conclut pas? Ce texte n'avait pas pour objet de donner un cours sur l'inceste ou de servir d'exemple, sur ce qu'il faut faire quand on est victime d'inceste. J'avais envie de raconter le drame d'une enfant. Autrement dit, il me semble que ces auteurs, effectivement, ne s'auto-censurent pas sur les contenus, mais vont chercher une forme qui va leur permettre de s'adresser aux jeunes spectateurs. C'est ce que j'ai appelé dans ma thèse des mots simples pour un monde complexe. C'est-à-dire, on ne cache pas à l'enfant que le monde est complexe, qu'il est violent, qu'il est dur, et effectivement, dans les thèmes, comme tu disais Pierre, il y a aussi des thèmes très difficiles, la mort, le viol, l'inceste. Cependant, dans les formes, on va essayer de trouver une sorte d'équilibre, un détour qui fait que ces thèmes difficiles vont pouvoir être reçus par un jeune public. Donc j'en arrive à ces formes de détour, j'en ai cité quatre. Le conte, ce que j'appelle le non-dit, la marionnette et le récit. Alors le conte, je vais peut-être prendre un seul exemple. L'œuvre relais de Suzanne Lebeau, qui est un texte extrêmement célèbre et très beau, traduit en 15 ou 20 langues. C'est pas vraiment un conte, en ce sens que c'est pas une adaptation de conte qui serait déjà connue. En revanche, on retrouve des personnages de contes, on retrouve une petite maison, je crois que l'esquelle initiale, c'est une petite maison perdue au milieu de la forêt, comme on l'imagine dans les contes. On retrouve des épreuves. En fait, l'ogre lait, c'est un petit ogre qui a 6 ans, qui a une taille d'adulte pour ses 6 ans et qui va pour la première fois à l'école. Et on comprend petit à petit qu'en fait, il est un petit ogre, mais qu'il ne le sait pas. Et à l'âge de 6 ans, il découvre le goût du sang, dont sa mère l'avait toujours propagé, en donnant toujours des légumes à manger. Et il va devoir lutter contre lui-même pour vaincre sa nature d'ogre et redevenir un être humain normal. Donc il va passer 3 épreuves, etc. Donc on a tout le schéma du conte. En même temps, c'est un conte original, en quelque sorte, inventé par Suzanne Lebeau. Mais au fond, ça parle des pulsions que tout à chacun, on a à vaincre, enfants comme les adultes. Donc c'est une façon de parler de la violence. Une façon, la violence ici, c'est manger des enfants quand même, ce qui a priori est peut-être le pire, c'est Suzanne Lebeau qui dit. Et ce qui est plus méchant pour un enfant, ben, quelqu'un qui fait du mal à un enfant. Donc on part d'une situation extrême pour au fond parler à tout le monde. Ici c'est la forme qui permet de s'adresser à tous les spectateurs, on parle de pulsions, de choses graves, mais de façon simple, de façon accessible. Autre détour possible, le non-dit. Mathieu trop court, François trop long, de Jean-Roch Gaudreau. Deux enfants d'une dizaine d'années, il y en a un qui vient d'aménager. Ils se rencontrent, ils deviennent amis, mais c'est au début extrêmement conflictuel. Et on comprend que l'un des deux enfants en fait est atteint du sida. Mais le mot sida n'est jamais prononcé, il l'appelle la maladie de l'heure. On comprend que personne ne veut jouer avec lui, personne ne veut l'aimer, les autres parents interdisent à leurs enfants de venir le voir. Et en fait, cette relation d'amitié qui naît, elle naît exclusivement dans le non-dit. Alors je vais vous lire juste la dernière tirade, c'est la fin. On comprend que celui qui est malade est mort, vraisemblablement. François. Et Mathieu, je t'ai ramené ce que tu voulais. En fait, c'est des plantes avec une espèce de laine à l'intérieur qui peuvent servir à fabriquer des vêtements. Je ne sais pas si tu vas en avoir assez pour tricoter ton gilet. Il y en a plein encore. Je pense que je t'ai vu passer dans une auto tout à l'heure. Silence. As-tu remarqué comment le soleil a l'air vieux à cette heure-ci? Je pense qu'il sait qu'il va mourir tantôt. Ça lui fait rien. Lui, il peut revenir chaque matin. C'est un chanceux. François fouette les quenouilles, ces plantes, sur la galerie et les brise. Il examine le duvet. J'ai sali mes pantalons neufs en allant les chercher. C'est pas grave, ils me piquaient. C'est vrai que l'eau où vivent les grenouilles est sale. Je vais dire à ma mère que j'ai sauvé une petite fille qui est en train de se noyer dans l'étang, que les pompiers sont venus, puis que je vais recevoir une médaille par la poste. Ici, elles m'envoient en punition dans ma chambre. C'est pas grave, j'ai le temps. Le personnage ne dit jamais « oui, j'ai compris que mon copain est mort ». Pourtant, on comprend dans tout ce qu'il dit, en évoquant... Alors qu'il parle à personne, il est absent, il n'est pas sur scène, on ne sait pas. Dans tout ce qu'il dit, il remémore tout ce qu'ils ont vécu ensemble, tout ce qu'ils avaient forgé leur complicité, et qui maintenant n'existe plus. Donc, deuxième détour, le non-dit. Faire suggérer les choses, l'implicite, tout ce qui gît entre les répliques. Troisième détour à la marionnette, Michel-Marc Bouchard, Histoire de loi, qui traite de la maltraitance en fait, de l'enfance. Ça se passe dans une ferme dans les années 50 au Québec. Un jeune garçon devient l'ami d'une oie, et en fait, cette oie, on comprend qu'il est explicitement indiqué comme devant être enjoué par une marionnette, devient petit à petit le souffre-douleur de l'enfant. Et là encore, on ne voit jamais les parents maltraiter l'enfant. On a des métaphores parfois de l'orage qui gronde. On voit après un noir l'enfant revenir avec un bandage au bras, et puis la scène suivante avec un bandage sur la tête. Donc on comprend qu'à chaque bêtise, il est puni, il est battu. Et on comprend surtout ça grâce à la maltraitance que petit à petit il fait subir aussi à l'oie. Il finit par lui tordre le cou. Donc là encore, on est dans le non-dit, dans le symbole. Plutôt que de montrer la maltraitance, on la suggère. Dernier détour, c'est le récit. Et ça, je trouve, dans les dernières pièces qui paraissent, c'est ce qui est le plus développé. Abdebond, Mirab, un garçon de Bosnie, qui parle de la guerre en Bosnie. Pièce privée pour deux acteurs qui doivent jouer une bonne dizaine de personnages. Et on passe sans arrêt du récit au drame. Il y a une scène de viol. Il y a deux ou trois scènes d'assassinat. Il y a une scène dans laquelle une mère étouffe son bébé pour ne pas être prise par les patrouilles de Serbes qui croisent tout autour. Dans ce qui est raconté, c'est extrêmement violent. Mais ces scènes ne sont jamais montrées. On a effectivement des moments où on passe du récit au drame, plutôt des scènes de complicité d'ailleurs, mais tout ce qui va être trop dur pour être montré, c'est raconté. Comme si le récit permettait une certaine mise à distance qui fait qu'on est moins impliqué. Effectivement, il n'y a pas de Sarah-Kane ou de Yann Fabre encore du jeune public. Mais on a, en tout cas dans les contenus, des choses extrêmement violentes. Simplement, le propos, lui, va chercher des autres. Voilà, donc pour conclure, la fin de la censure et ou de l'autocensure dans le théâtre jeune public. Certains auteurs reconnaissent qu'il y a encore une forme d'autocensure économique, c'est évident, sur le nom des personnages, dans les thèmes aussi, où il faut garder une certaine vigilance. En même temps, la plupart des auteurs, à mon avis, prennent cette forme d'autocensure, décident de s'en saisir comme une contrainte productive. Je m'adresse au jeune public, il faut que je fasse attention dans mon propos, et bien c'est un défi. Et je vais essayer de trouver des formes différentes pour dire ce que je veux dire.